remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Remue-ménage, Radio Zone Ondes Femmes 93.8. Aujourd'hui, notre rendez-vous mensuel avec nos amis de la librairie L'Inédite, Annette et Evelyne, bonjour.
Bonjour Catherine.
Quel cœur.
Vraiment.
On ne s'est pas revus depuis avant les vacances, on se souhaite bonne année et on est très contente de vous retrouver, d'autant plus qu'on a décidé que cette année on se retrouverait à date fixe, donc on sait d'avance nos rendez-vous, on vous les délivrera à la fin de l'émission et c'est très chouette de savoir qu'on peut chaque fois se réjouir pour la prochaine fois. Alors aujourd'hui, nous vous proposons, elle vous propose parce que c'est elle qu'on choisit et moi j'ai suivi.
Si tu le dis.
Non, c'est vous qui le dites.
Lettre à mon fils de Michel Fitoussi, paru aux éditions Kalman-Lévy, tout à la fin, je crois, en décembre 91.
Voilà. Alors, tout de suite, nous partons en musique et nous nous retrouvons dans la lettre à mon fils, Michel Fitoussi. Tu as presque 6 ans, le cœur tendre et la gâchette facile. Sous le feu de tes canons pointés vers eux, tes ennemis de papier tremblent et se défilent. Tu leur caches ton pouce pour t'endormir, ta soif de gros câlins et ta peur de la nuit. Tu ne tiens pas en place, tu sautes, tu remues sans savoir te calmer. Il n'est pas un bruit que tu ne saches imiter, de préférence celui des moteurs et des coups de carabine. Tu ressembles à un dessin animé, à toi tout seul. Tu bouges par saccade et tu t'exprimes par bulle. Tu aimes le chocolat, la crème chantilly, la télé, les motos, la bagarre, les Playmobil, les épées et Walt Disney. Tu admires ta sœur et tu méprises les filles. Tu es un petit garçon, le mien. Un héros n'a pas de maman qu'il aime. Ce serait incongru, contraire aux règles qui régissent l'univers impitoyable des personnages qui te font vibrer Goldorak, les chevaliers du Zodiac, les tortues ninja, et j'en oublie sans doute. Tu n'es pas tout à fait trempé dans le même acier. À la moindre bosse, tu te réfugies dans mes bras en pleurant. Un baiser te suffit pour repartir au combat. Plus tard, d'autres dulcinés sauront mieux que moi te consoler. Il est trop tôt encore pour que tu en conviennes.
Que tu pousses grand et fort est mon seul désir, mais chaque minute qui passe, je voudrais retenir ton enfance. Tu es si fragile, si petit. J'aime tes mouvements malhabiles, tes airs bravaches, tes larmes qui pointent lorsque je gronde un peu fort. J'aime ta confiance en moi, tes certitudes naïves, ton mauvais caractère, tes rires, tes joies, tes mots comiques, la malice au fond de tes yeux. J'ai hâte que tu grandisses et j'aimerais figer ces instants fugaces. Tu vas m'échapper, mais tu as encore peur de l'envol. 7 ans, l'âge de raison. Nous avons encore quelques mois de répit avant que tu ne deviennes tout à fait raisonnable. Souvent, je t'observe à ton insu. Visage fin, grands yeux bruns bordés de longs cils, membres graciles où le bébé le dispute encore à l'enfant. Je fais semblant de soupirer. Quand je pense qu'un jour tu seras plus grand que moi, tu auras de gros pieds, de grosses mains, des poils partout, et tu me regarderas de toute ta hauteur. Cette image nous fait rire tous les deux aux éclats comme s'il s'agissait d'une bonne blague, improbable. Je m'interroge quand même. 25 ans en l'an 2010, quel homme seras-tu? Un de ces golden boys, chemise rayée, cravate club, la semaine à la bourse, le week-end sur les greens? Un baroudeur aventurier, bronzé toute l'année, Paris-Dakar l'hiver, trekking ou les pales d'été. Un technocrate austère, costume sombre, lunettes cerclées, la bouche pleine de chiffres et de statistiques. Seras-tu flic ou fonctionnaire, journaliste ou chômeur, colonel ou politicien, étudiant attardé ou vendeur de fringues, musicien ou diplomate, marié, père de famille, célibataire, homosexuel ou don juan.
J'ai du mal à t'imaginer avec 20 ans de plus, sauf à te voir heureux, bien dans ta vie, indépendant. Mais quand tu auras depuis belle lurette quitté les lévis de ta mère, m'en voudras-tu beaucoup si je te demande encore de mettre ton écharpe, car dehors il fait froid. D'ordinaire, ce sont les petits garçons devenus grands qui se souviennent avec tendresse et dévotion de leur maman irremplaçable. Mettons qu'ici j'inverse la tradition. Je fixe nos souvenirs et j'anticipe ton avenir. Je me pose des questions sur la façon dont je t'élève et je ne trouve pas toujours les réponses. Je me demande ce que tu vas retenir de mon empreinte. Certes, j'aurais pu choisir ta sœur comme destinataire. D'ailleurs, je l'imagine déjà, protestant contre cet arbitraire. Pourquoi lui et pas moi ? Dira-t-elle indignée. Je le savais, c'est lui que tu aimes le mieux. Qu'elle se rassure. Je ne t'aime pas mieux qu'elle ni plus. L'amour maternel, me semble-t-il, ignore les préférences. Pourtant, c'est à toi que j'écris.
Je t'écris pour réparer une injustice, parce que l'éducation des petits garçons est trop négligée aujourd'hui. Après des siècles d'indifférence et 3 décennies de féminisme, les petites filles tiennent le haut du pavé. Nous, les mères, nous nous occupons trop d'elles et les garçons sont à la traîne. Une fois adulte, vous restez petit. À travers toi, c'est à tous tes contemporains que je m'adresse, ceux qui, comme toi, seront des hommes au siècle prochain. Je t'écris pour essayer de t'apprendre à grandir. Je t'écris pour t'aider à surnager dans une époque difficile pour toi. J'ai cru, comme beaucoup, à l'émergence d'un monde où triompherait l'égalité entre les sexes. La réalité est tout autre. Après 2 millénaires de patriarcat, tu risques d'être un homme, un père, un amant, dans un siècle de féminité triomphante. Comment vas-tu t'en arranger ? Je t'écris pour te parler des femmes. Je t'écris parce que l'enfant que tu es me fascine. Je n'ai pas eu de frère, jusqu'à toi j'ignorais ce qu'était un petit garçon. En te regardant, je pense à Bernard Lhermitte, le héros des bandes dessinées de Martin Véron, murmurant à un bébé-fille. Dis ma petite, je compte sur toi pour expliquer à ton papa les mystères de ton sexe. Je t'écris pour mieux te comprendre. Je t'écris parce que tu es à l'âge formidable où l'enfance est encore ingénue. Un pas tout à fait grand, plus tout à fait petit. Je t'écris parce que tu m'émerveilles.
Je t'écris parce que tu es un petit frère, toujours deuxième, souvent floué. Je t'écris pour qu'une fois au moins tu sois le premier. Je t'écris parce que plus tu avances et plus j'ai peur pour toi. J'ai l'impression que toute l'éducation aujourd'hui se résume aux mises en garde. Attention à la drogue, attention au sida, attention quand tu traverses. Pourtant, j'aurais adoré t'offrir un monde meilleur, à l'image de celui dont je rêvais, enfant. Ce n'était pas faute d'avoir essayé.
Je t'écris pour te protéger. Je t'écris parce que j'ai envie de te raconter mon passé, mes racines, ce qu'on m'a transmis, ce que je voudrais à mon tour te transmettre. Je t'écris pour te parler de moi. Je t'écris pour t'exprimer mes doutes au nom d'une génération, la mienne, qui s'interroge sans cesse sur son rôle de parent. Les nôtres n'avaient pas ces scrupules. Je t'écris pour faire un bilan de mes incertitudes. Je t'écris enfin parce que je t'aime. Par là, sans doute, aurais-je dû commencer. A woman has to do her best.
Nous vous rappelons que, comme je vous l'avais annoncé la semaine passée, si vous aussi par hasard vous avez lu « Lettre à mon fils » de Michel Fitoussi, eh bien n'hésitez pas à nous téléphoner au 023, si vous appelez depuis la Suisse voisine, 50 40 50-40-51-41. Je répète, 50-40-51-41, 023 depuis la Suisse voisine, pour nous donner votre avis à propos des petites provocations que nous allons nous faire entre les trois. Chacune choisira un petit bout de texte et la proposera aux deux autres. Et nous discuterons. Alors, nous espérons que vous vous y mêlerez et que vous nous donnerez votre avis sur la question. Alors, toutes les mamans de petits garçons et toutes les mamans de petites filles qui pensent que c'est pas forcément juste ou pas forcément faux, téléphonez-nous dans Onde Femme, Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Alors Evelyne et Annette, peut-être ce qui serait intéressant pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est de leur expliquer un petit peu quels sont nos points de référence quand on a commencé à lire ce livre. Parce que je crois que ce serait pas très juste de cacher que nous avons toutes des fils, premièrement, toutes les trois. Hein? Et que donc, quand on a lu ce livre, forcément, on fait référence à ce que nous avons vécu, nous, en tant que maman. Alors peut-être, est-ce que vous nous présentez vos fils en deux secondes comme ça, histoire que nos auditrices sachent de qui on cause et où nous en sommes. Est-ce que vous avez des fils qui ont 7 ans comme celui de Michel Fitoussi, Annette?
Alors non, bien sûr Catherine, nos fils sont plus âgés. Et je vais présenter d'abord le mien puisque je parle. Il s'appelle David, il a 17 ans très bientôt et il a deux sœurs plus âgées que lui. Donc, il se trouve dans la même position que le petit garçon dont nous allons parler, qui est, comme elle le disait, toujours le deuxième. Bon, le mien, c'est le troisième, mais ça revient au même. Il a affaire à forte partie avec deux sœurs aînées qui ont de la personnalité, bien entendu.
Le mien est le plus âgé de trois, je crois, parce qu'il aura 23 ans cette année. Il s'appelle Diego. Il est né en Amérique du Sud et il a été élevé jusqu'à l'âge de 13 ans avec une petite interruption au Venezuela. Et bon, il a maintenant une petite sœur qui a l'âge alors du fils de Michel Fitoussi qui est entre ses 5 et 6 ans. Et bon, il a eu l'avantage d'être une sorte de fils unique pendant longtemps. Mais je dois dire tout de suite que je n'ai jamais eu pour lui c'est les craintes que manifeste Michel Fitoussi face à son fils. J'avais tout au long de l'éducation que je lui donnais, je réfléchissais sur ce que je faisais avec lui. Mais mon grand souci, c'était d'en faire, en tout cas, un homme pas machiste, pour dire comme ça, pour le dire simplement et vulgairement. Là. C'était ma première, c'était vraiment ma première préoccupation à l'époque. Bon, je dis, il a 23 ans, donc moi, je l'élevais, il est né en 69. Donc, je l'élevais dans des années où le mouvement féministe se cherchait encore, hein, n'était pas vraiment bien établi. Bon, c'est ce que je peux dire juste pour le moment. Je te repasse la parole.
On continue la liste des enfants. Alors moi, j'ai aussi un fils qui a bientôt 17 ans aussi, comme David, et s'appelle Sylvain. Et lui, il est l'aîné. Donc, il ne se trouve pas être dans la situation du fils de Michel Fitoussi. Il a une sœur qui a 14-15 ans. Ils ont été très, très proches pendant extrêmement longtemps. Maintenant, ça se différencie un petit peu parce qu'ils ont chacun leurs copains et leurs histoires. Mais je crois pouvoir dire, comme Evelyne, que mon grand souci était qu'il découvre l'égalité entre les hommes et les femmes et ne se laisse pas embarquer dans l'une ou l'autre réaction. À l'époque, je disais pas machiste parce que pour son petit bout de chou, ça me semblait bizarre, mais... C'est vrai que parfois nos regards se sont croisés assez durement quand il s'agissait de respect des petites copines, par exemple. Alors, si je vous demandais ça, c'est que je crois qu'on ne peut pas lire un livre comme celui-là sans forcément faire référence à sa propre histoire. Je ne sais pas si il se trouve qu'il y a des femmes ou des hommes qui achètent ce livre qui n'ont pas d'enfants. Moi, ça m'étonne. Je pense que le réflexe doit être, mais qu'est-ce qu'elle peut bien raconter à son fils et je vais voir en quoi ça correspond à mon histoire. Vous n'avez pas un peu cette
sensation? Oui, tout à fait. Et moi, j'ai pensé que, par exemple, si j'achetais ce livre pour en faire un cadeau, il est clair que je l'achèterais, par exemple, à une amie qui vient d'accoucher d'un petit garçon ou qui a un garçon de cet âge-là. Je crois qu'effectivement, c'est très prégnant dans ce livre. Elle a mis tout son affect, Michel Fitoussi. Elle se livre d'une manière assez importante bon, peut-être avec légèreté de temps en temps, on le verra plus tard. Mais effectivement, c'est très, très simple et ça s'adresse vraiment à quelqu'un qui a vécu des expériences semblables.
Alors bon, ce qui semble très frappant dans ce qu'on nous avons lu à toutes nous trois là, qui a pour titre « Adresse », il faut préciser que ce livre est toute une série de petits chapitres avec de multiples titres que l'on peut parcourir, je crois, sans aucun ordre chronologique. À mon avis, il n'y a pas de chronologie, il y a peut-être des thèmes qui nous intéressent plus que d'autres. Mais le premier, bon, situe l'intention de Michel Fitoussi par rapport à son bouquin. Et elle conclut, c'est dans les derniers mots qu'Evelyne nous a lus, « Je t'écris pour t'exprimer mes doutes au nom d'une génération, la mienne, qui s'interroge sans cesse sur son rôle de parent. Les nôtres n'avaient pas ces scrupules. » Je la trouve un peu sévère, d'abord, à l'égard des autres générations. Je ne sais pas si nos parents ne se posaient... Je pense qu'ils ne se posaient pas les mêmes questions que nous, mais ça m'étonnerait qu'ils ne se posent pas de questions, même si aujourd'hui, on trouve que parfois, ils avaient l'air de mettre tellement de distance entre leurs enfants et eux-mêmes que peut-être on peut croire que c'est parce qu'ils ne se posaient pas de questions. Mais je crois que c'est sûr que notre génération, en tout cas, elle s'en pose beaucoup parce qu'elle a eu, à un moment donné, la prétention de faire différemment que ses propres parents et que donc elle ne se sent pas si sûre de faire quelque chose de mieux que ce que nos parents avaient fait. Est-ce que vous-même, avant d'avoir des enfants, vous vous êtes dit « Allez, je ferai mieux qu'eux » en parlant de vos parents ?
Absolument. Moi, j'avais tout à fait cette prétention. Je ne l'ai plus, mais je l'avais. Il me semblait que je voyais plein d'erreurs dans ce que j'observais et que je ne ferais en tout cas pas ces erreurs-là. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pense que quand même ce 20e siècle, pour ne pas dire notre génération, mais disons le 20e siècle, c'est peut-être quand même dans l'histoire occidentale qu'on connaît, c'est quand même peut-être le siècle où on se pose le plus de questions sur l'éducation et sur ce qu'est un enfant et sur s'il a des droits, etc. Je pense que d'après ce que j'ai lu sur les siècles antérieurs, l'enfant était très peu souvent un sujet et un objet d'observation. Il n'avait qu'à grandir et il n'était en général pas intéressant avant l'adolescence, au moins, disons. On ne s'en occupait pas trop. Même les mères, si elles le pouvaient, le faisaient élever par d'autres personnes. Ça posait pas de graves problèmes aux parents. Je crois pas qu'ils se pensaient en tant que parents, beaucoup. Par contre, ce siècle, oui, le fait. Et puis notre génération le fait aussi en particulier. Alors, bon, oui, moi, j'ai pensé faire mieux. Et je me rends compte, par exemple, que mon fils, qui a près de lui une petite sœur qui grandit, qui pourrait presque être sa fille, pas tout à fait, mais quand même, là, maintenant, il a 23 ans, elle en a 5 ans et demi. Et il ne me ménage pas en me disant que lui, l'élèverait autrement et mieux. Et qu'il me trouve très... pas faible, mais presque. Il a donc lui aussi fait une réflexion sur la manière dont on élève les enfants et il n'est pas tout à fait d'accord avec ma manière. Donc ça l'histoire continue.
Ah, ça, je suppose, en tout cas. Quelques pages plus loin, elle répète un petit peu cette histoire en disant « Oui, nous, dans les années 70, nous avions un futur nouveau à construire. » Pas question de répéter les erreurs que nos parents avaient commises, mais pour nous, le réveil fut dur parce que plus de certitude, des doutes en guise d'héritage, voilà ce que nous avions à vous proposer après un certain temps de croire que nous étions investis d'une mission particulière. Et comment aujourd'hui pourrais-je te faire croire à un monde meilleur si nous-mêmes, nous avons perdu le mode d'emploi à force d'en avoir démonté les rouages? Et moi, cette phrase m'a beaucoup interpellée parce que c'est vrai que des tas de fois, quand je réfléchissais comment je devais réagir, parce que j'ai eu l'impression de m'arrêter comme dans un geste, que celui tu vas donner la claque, puis non, ou bien celui tu vas interdire de faire ci, non, tu t'arrêtes, tu réfléchis deux secondes, comme si on était sans arrêt arrêté dans nos élans, et on se disait mais Est-ce que c'est juste vers quoi je le mène? Est-ce que je ne suis pas en train de me gourer complètement? Avec toujours cette angoisse de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de refaire ce que mes parents faisaient, ce que moi j'ai tellement critiqué? Je sais que c'était des sortes de phrases lancinantes qui revenaient souvent dans ma tête. Est-ce que comme ça, quand on agit spontanément, on ne fait pas simplement répéter ce qu'on nous a appris et qu'on ne construit justement pas quelque chose de nouveau? Et finalement, est-ce que nos gamins n'ont pas senti ces doutes terriblement qu'on avait sans arrêt à se poser la question si on faisait juste ou faux?
Alors ça, je pense qu'effectivement, c'est une des interrogations majeures de la génération qu'on représente. Et bon, si je reprends mon histoire à moi, il est sûr que j'ai vécu énormément la difficulté de douter. Et j'ai aussi l'impression que j'ai laissé énormément de choix, notamment à ma première fille. J'ai l'impression qu'effectivement, l'aînée n'est pas forcément bénéficiaire dans une famille et que c'était effectivement très, très difficile de savoir ce qu'on allait faire et si on le faisait au bon moment et dans une trajectoire qui serait bénéfique à l'enfant. Et ça, j'ai trouvé extrêmement difficile, disons, mes premières armes de mère face à une petite fille, puisque l'aînée était une petite fille. J'ai aussi vécu personnellement l'impression qu'on était imbu de théorie. En tout cas, moi, quand j'ai eu ma première fille, j'avais lu un certain nombre de livres de psychologie. Il faut dire aussi que si on dit qu'on parle beaucoup des enfants... que le problème de l'éducation était plus fort pour notre génération, il y a une vulgarisation de la psychologie et des méthodes éducatives qui est véritablement une inflation et qui n'existait probablement pas à l'époque de nos parents où il y avait quelques traités pédagogiques et rien d'autre. C'est vrai que la psychologie et l'observation des enfants d'ailleurs aussi, et notamment de la pathologie, a fait d'énormes progrès disons les 30 dernières années.
Il y avait Dr Spock, oui, qu'on a lu toutes nos mères.
Et il y a Laurence Pernoud aujourd'hui.
Oui, bon, je pensais quand même à des livres un petit peu différents que Laurence Pernoud et le Dr Spock. Mais je trouve que, en tout cas moi, j'avais lu des livres qui culpabilisaient quand même énormément certaines attitudes. Et je trouvais assez difficile, enfin quasiment impossible de faire juste. Et j'ai, au contraire, peut-être de vous, eu l'impression que ma mère, en ne se posant pas ces questions, avait peut-être raison. Et j'ai pas eu l'impression, je voulais faire autrement qu'elle, mais je n'ai pas vécu le sentiment que ce qu'elle avait fait, c'était vraiment c'était pas bien. J'ai pas du tout vécu ça dans les souvenirs que j'ai de mon enfance. Mais je voulais faire autrement, donc ça voulait dire que je voulais aussi faire mieux.
Moi, personnellement, quand j'ai dit tout à l'heure, elle est persuadée, Michel Fitoussi est persuadé que nos parents ne se posaient pas ce genre de questions. Moi, je ne suis pas sûre. Hein. Je sais en tout cas que, j'ai découvert ça plus tard, que ma mère se posait un certain nombre de questions, mais qu'en tout cas, elle ne les mettait jamais sur la table, parce que ça faisait partie des choses qu'elle était censée savoir. Une femme étant faite pour éduquer des gosses, elle devait savoir ce qu'elle devait faire. Donc, elle ne devait pas avoir vraiment beaucoup de doutes. Et je crois que si elle ne les a pas posées ouvertement, c'est parce qu'elle craignait de le faire, montrant ainsi des doutes. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre de ce qu'elle m'a raconté plus tard. Et puis, il y avait toutes les questions qu'elle ne posait pas parce qu'elle ne savait pas y répondre, comme nous, mais plus parce que ça correspondait à des angoisses et des non-savoirs qu'elle avait, elle, et qu'elle ne voulait pas transmettre. Elle croyait qu'elle n'en parlait pas parce qu'elle se disait « il ne faut pas que je leur transmette ». Finalement, ce n'était pas forcément, entre autres, à propos de sexualité. Après coup, on s'est acharné à lui dire, entre ma sœur et moi, qu'elle aurait mieux fait de nous transmettre ses doutes plutôt que de rien nous dire. Mais bon. Mais disons que... Moi, j'ai non plus pas eu l'impression qu'elle ne se posait pas de questions. Je crois qu'ils s'en posaient aussi. Mais moi, dans l'idée de faire autrement, il y avait en tout cas une chose qui me tarabiscotait beaucoup et qui rejoint la démarche de Michel Fitoussi quelque part. C'est l'envie de faire que mes enfants sachent toujours ce que je pense, quelque part. Hein, je crois que j'avais souffert du fait que mes parents ne nous faisaient pas partager ce qu'ils avaient dans la tête. Et je me disais, moi, en tout cas, j'aurais toujours envie de dire à mes enfants ce qui se passe, de leur expliquer et qu'on puisse avancer un peu ensemble. Et c'est un petit peu la démarche de Michel Fitoussi. Tout à coup, elle a besoin de s'expliquer. Elle veut se... Alors, je ne sais pas si j'aurais écrit une lettre à mon fils pour lui expliquer. Mais en tout cas, c'est ce qui fait un petit peu le fil conducteur, en tout cas du début de l'éducation de mon fils quand il est né. C'est de dire, avec lui, on lui expliquera, avec lui, on parlera. Et c'est ce qui semblait fondamentalement différent, en tout cas, dans notre éducation.
Oui, je serai allée un petit peu dans la même direction. Moi, c'est une de mes règles de base, c'était d'abord, c'était pas toujours de lui dire ce que je pensais, mais de lui laisser dire à lui ce qu'il voulait, parce que c'était un des reproches que je faisais à ma mère, c'est de ne pas me laisser m'exprimer, de ne pas me laisser assez de liberté, d'avoir été vraiment possédée, d'avoir été trop contrôlée. Alors une de mes règles, c'était je ne vais pas faire ça, je vais lui laisser beaucoup de liberté, et puis je vais lui laisser la possibilité d'exprimer son mécontentement, son refus de faire quelque chose. Ah, ça a été une de mes règles comme ça qui est restée valable tout le long. Mais j'ai aussi plus tard, quand il était plus grand, je l'ai pris aussi quelquefois comme une sorte de confident, je dirais. Mais ça, a posteriori, je me suis dit que c'était peut-être pas très sage de ma part, parce que quelquefois, j'ai eu après l'impression d'avoir mis sur ses épaules, d'une certaine manière, trop de choses dont il était, qui n'étaient pas son problème à lui, et qui ne faisaient que l'inquiéter un peu, disons. Je veux pas dire que je l'aurais traumatisé avec ça, en lui parlant. Quand je dis que je le prenais pour confident, c'était plutôt pour parler de certains problèmes que j'avais qu'autre chose. Et ça, j'ai pensé que c'était une chose que je ne referais pas. Qu'il aurait fallu que j'attende qu'il soit vraiment à l'âge adulte, ou enfin beaucoup plus vieux, pour faire ça avec lui. Donc c'est vrai qu'on peut... Je crois bien, c'est bien de leur parler, de leur dire un peu qui on est pour. Mais en même temps, on reste quand même les parents. Enfin, on était grands quand ils étaient bébés, et puis ils ont pendant très longtemps cette relation de nous regarder vers le haut, parce que ils sont tout petits, ils sont par terre, etc. Et quand on se descend à leur niveau, c'est bien d'un côté, mais il faut garder des limites, il faut garder un équilibre. Je crois qu'il faut pas trop en faire non plus. Enfin, c'était, disons, c'est mon expérience, c'est ce que je pense maintenant.
Moi, j'ai l'impression que, comme Evelyne, c'était pour nous, je dis nous, parce que le père est, je pense, très important. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut faire, je crois, à l'écriture de Michèle Fitoussi, c'est qu'elle assume, bon, elle vit une situation de mère séparée du mari pour élever l'enfant, mais le père est toujours là, elle en parle une ou deux fois, mais elle assume vraiment énormément seule cette lettre et l'éducation de son fils. Et moi, je pense qu'effectivement, quand j'imagine ma situation, je ne vois pas comment j'aurais pu trouver mon équilibre autrement que par le dialogue avec le père des enfants. Pour moi, c'était vraiment très, très important. Et il a été un régulateur très important dans la famille, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vécu, nous, notre famille, un partage radical des tâches. J'étais plus souvent à la maison que lui. Il assumait beaucoup de choses quand il rentrait, ça c'est sûr. Il le fait encore aujourd'hui. Les enfants adolescents ont besoin d'un père, sinon plus que les petits. Et dans ce sens-là, je crois que c'était important de pouvoir communiquer à plusieurs. Et c'est vrai que je crois qu'on parle beaucoup plus qu'à l'époque de nos parents. Et comme le dit Evelyne, ce qui est difficile, c'est de savoir à la limite où s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a quand même des parties de la vie des parents ou de la vie des enfants qui leur appartient en propre. Et je ne crois pas qu'il est... Bon, d'abord, moi, je n'ai pas envie, et puis sur le plan théorique, je dirais qu'il n'est pas utile ni nécessaire de tout confier. Et bon, moi, je le vis évidemment très, très fort maintenant avec des enfants adolescents. Michèle Fitoussi, elle parle autrement de son fils parce qu'il est petit. Elle essaye de l'imaginer à l'adolescence. Elle essaye d'imaginer, entre autres, à la fin, ses copines, plus tard peut-être ses maîtresses, sa femme. Et... Bon, moi, je trouve ça très gratuit dans son livre, personnellement. Et je trouve que c'est très important de laisser l'espace aux enfants. Mais ce n'est pas facile.
Alors, est-ce que vous avez l'impression que ce qui est vraiment différent dans notre façon d'éduquer nos enfants, ça tourne autour de cette communication, c'est-à-dire On les laisse avoir un avis sur beaucoup de choses, on les écoute et on les considère. Est-ce que ce serait ça la grande différence de l'éducation qu'on a choisie, que vous avez choisi de donner à vos fils et à vos filles par rapport à ce que faisaient nos parents?
Bon, je pense que c'est un des éléments fondamentaux. Il y avait quand même autre chose. Je crois que, en tout cas moi je suis convaincue que notre génération gâte énormément ces rejetons. On leur passe tout. Et on a la possibilité matérielle, financière, affective, psychologique de s'intéresser beaucoup à eux, d'avoir de la disponibilité, j'allais dire mentale et temporelle, ce qui fait qu'on se penche énormément sur eux et on se penche trop. Et je trouve qu'effectivement, dans ce livre, on le sent très fort. Ce serait de ma part un reproche, mais que je peux me faire à moi, probablement, c'est que elle le dit bien dans tous ses termes, elle le dit très bien. Elle se penche beaucoup sur son fils et depuis qu'il se réveille jusqu'au moment où il se couche.
Et c'est peut-être pas ce qui va se passer avec nos enfants en tant que parents, parce que moi, quand je vois mon fils, j'ai l'impression qu'il va revenir à une éducation très stricte de ses enfants. Enfin, c'est ce qu'il dit maintenant, mais on verra à l'œuvre.